Empreinte, une émission conçue et présentée par Abdelkrim Tazarout, réalisée par Kamel Oularbi, chaque vendredi de 10h à 11h sur Alger Chaîne 3. Amis auditeurs, bonjour. C'est votre émission hebdomadaire consacrée au livre Empreinte conçue et animée par Abdelkrim Tazarout et réalisée par Kamel Oularbi. Je reçois aujourd'hui l'écrivain donc Abdelkrim Zali pour son ouvrage L'amour en guerre, souvenir d'elle, un roman paru aux éditions Casbah. Abdelkrim Zali, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Le plaisir est pour moi.
C'est gentil, c'est gentil. Donc, vous êtes auteur de Amour, l'amour en guerre, souvenir d'elle. Et c'est votre premier essai, donc, dans l'écriture, je me trompe, c'est vrai, c'est la
l'écriture
première fois.
Romanesque, oui, oui, c'est le premier roman. J'espère que ce ne sera pas le dernier.
J'espère, oui.
Le second est dans le four.
Ah, donc,
voilà.
Une nouvelle carrière après celle du...
Carrière, je ne sais pas, mais c'est...
Celle du journaliste que vous étiez et que vous êtes toujours, un peu.
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Honnêtement, non, par rapport au journalisme, c'est la retraite totale.
C'est la retraite totale. Alors, vous vous consacrez donc à la littérature et votre premier ouvrage, donc, c'est L'amour en guerre, souvenir d'elle. L'amour en guerre, c'est en gras, donc c'est vraiment ça le décor de votre ouvrage.
En fait, c'est un compromis parce que moi, mon titre, c'est L'amour en guerre. Il n'y a
tout
pas
court.
Souvenir d'elle. La maison d'édition voulait changer le titre en Souvenir d'elle. Moi, je dis non. L'idée de l'amour en guerre, c'est ça le propre du contenu du roman. C'est ça, c'est un amour en guerre. Que ce soit un amour en guerre... contre soi-même, un amour en guerre contre sa famille, un amour en guerre contre sa tribu, un amour en guerre contre l'occupant, parce que ça se passait essentiellement une bonne partie durant la guerre de libération nationale. C'est le vécu de ma mère, c'est un roman presque biographique qui concerne le vécu d'une femme, la femme de ma vie, c'est ma mère.
C'est beau, c'est bien dit. Donc je retiens moi deux choses. Le premier, c'est l'amour en guerre, vous l'expliquez bien. Donc, moi, j'ai pris ça comme étant, parce que j'ai lu le roman, c'est un peu le décor. Le décor, c'est la guerre. L'amour est né dans ce décor de guerre.
Disons que la guerre...
En partie. Hein.
La guerre de libération est venue après. Mais ça a commencé par une guerre contre sa propre famille, parce que qui voulait la marier... C'est le vécu réel de ma mère. Tout ce qui est raconté ici est le vécu réel de ma mère. Il y a des parties un peu romancées, mais l'essentiel, c'est tout ce qu'elle m'a raconté et tout ce qu'on m'a raconté est le fruit de ma propre enquête pour vérifier certains faits historiques importants.
Très bien. Juste pour revenir à votre explication. Donc, l'amour en guerre, c'est l'amour de votre mère contre... Donc,
Elle a défendu son amour pour mon père.
C'est ça.
Contre sa famille qui voulait la marier un vieillard.
C'est ça.
Ouais.
Et elle s'est aussi battue contre l'armée coloniale.
Elle a soutenu mon père qui était un militant.
Non, dans un premier temps.
Mon père était militant du PPA-MTLD depuis les années 40, peut-être même depuis la fin des années 30, parce qu'il est né en 1905. Donc, il a un peu fréquenté le mouvement national à Constantine à partir de la fin des années 30. Et il a été militant du PPA-MTLD, puis membre de l'OS, il a été... Parce que quand il est parti avec ma mère, il s'est installé à Constantine. Ma mère était enceinte de ma grande sœur à Constantine. On a intimé l'ordre à mon père de repartir au bled pour préparer le terrain à la lutte armée. Étant membre de l'OS, l'OS a été créé après le congrès de Bellecour et Bouzelia, parce qu'il a eu lieu dans deux endroits, en 47. Et là, ils ont créé l'OS, ils ont donné... Blues Dead, qui en était le chef,
le premier chef,
à tous les membres de l'OS, les futurs activistes du FLN de préparer la guerre de libération. Mon père, on lui a donné l'ordre de rentrer au pays, de préparer la révolution. C'est comme ça qu'il est reparti au bled avec la peur au ventre d'être tué. Parce que il s'est quand même enfui avec ma mère la veille de ses fiançailles avec un vieillard. Et ça fait partie de cet amour qui est en guerre contre les traditions, ouais, contre la tribu, ouais, ouais. Contre les idées, comment dirais-je, qui écrasent...
Et rétrograde.
Rétrograde, non, qui écrase
l'individu.
L'individu, notamment la femme.
Notamment la femme. Alors, moi, comment je l'ai perçu, c'est d'abord un superbe hommage à la mère, à votre maman...
Tout
et à toutes les mamans. Et cet bel hommage, il a été retenu déjà. C'est pour ça que je regardais le quatrième de page dans couverture. Elle s'appelle Sultana. Elle était, elle est, elle sera toujours ma reine. Celle qui m'a dit un jour, le passé ne passe que pour ceux qui oublient. C'est pourquoi moi, qui n'ai rien oublié, je la raconte comme elle aimait me raconter, enfant, des histoires qui m'ont fait grandir dans ce pays chéri, fier et hautain, mais rude et impitoyable. Moi, c'est cet hommage-là qui m'a le plus marqué dans le roman, parce que vous racontez aussi bien la mer que ce pays chéri dont on parle, la mémoire collective ne retient que le NIF, le Chéoui, ou alors de la participation dans la guerre de libération. Mais là, vous racontez aussi ce rude pays qui est pays Chéoui. C'est le dénuement, il est oublié de tout.
Moi, je veux en fait démystifier un peu l'OS, parce que on a trop souvent parlé de l'OS sans le connaître, en fait. C'est un ORS tellement connu qu'il est resté anonyme, en fait. Qui n'est pas connu parce que c'est paradoxal. Parce que, qui a fait la révolution?
Oui.
Qui a fait la guerre de libération? Qui a fait la résistance de 1916? Si on revient aux actes de résistance de l'ORS, au moins durant... au moins durant l'occupation coloniale française, je ne remonte pas au passé historique de la résistance des ORS à l'invasion arabe, à l'invasion byzantine, parce qu'il y a Yabdas. Je fais allusion à Yabdas, le roi Yabdas qui a résisté aux Byzantins durant le 6e siècle de notre ère. Mais pour rester uniquement sous l'occupation coloniale, qui ont résisté en fait? C'est les petites gens.
Oui,
c'est les petites gens. Mmh. Les grands noms que l'ORS a donné comme Ben Boulaïd et Chehani Bachir et Lghrour Abbas, oui, c'est de grands hommes, mais quelle aurait été leur contribution sans les petites gens? Qui ont donné leur vie, qui ont donné leurs enfants, qui ont donné leur bien, même si ce bien est vraiment réduit, dérisoire, comme tu dis, les Spartiates, il n'y a pas grand chose à donner. L'essentiel, c'est la vie. Ils l'ont donné. Et le courage dont on parle chez les Chéouis n'a aucun sens s'il n'y a pas cette peur de la mort. On a tous peur de la mort, mais le mérite, c'est de vaincre sa propre peur et d'affronter le danger et de donner sa vie pour la liberté. Moi, c'est l'hommage, il est oui à ma mère, l'hommage oui à toutes les mères, l'hommage à toutes les femmes et à toutes les petites gens qui ont donné leur vie, qui ont donné leur bien, qui ont donné l'essentiel de ce qu'ils possédaient pour l'indépendance de ce pays. C'est ça, en fait. Le vrai hommage que je voulais rendre à travers ce livre.
Et pour ce faire, vous procédez à des allers-retours entre le passé et le présent, des allers-retours.
Tout à fait.
Et l'élément déclencheur, si on veut, c'est les derniers moments de votre mère.
Oui, vous avez dû remarquer que je commence par... Enfin, c'est 10 heures, les 10 dernières heures de ma mère.
C'est ça, moi... 10 heures,
moins 10, moins 9, jusqu'à le dernier chapitre, c'est moins 0. C'était le moment de... C'est son dernier, quand elle a rendu son dernier souffle. Mmh. Chaque fois, je suis là, j'étais à son chevet. Réellement, j'étais à son chevet. Et des réminiscences, des souvenirs qui reviennent, parce que je suis en train de voir, comme je t'ai dit, la femme de ma vie, ma mère... la femme que j'ai aimée sans retenue, je la voyais partir. Je voulais la retenir, mais je ne pouvais pas. Est-ce que j'ai le droit de la retenir? D'ailleurs, je le dis. Ai-je le droit de la retenir? Elle est fatiguée. Elle a 94 ans. Elle n'avait aucune maladie. C'est la vieillesse. Mais ce que j'admire en elle, c'est...
La vieillesse qui est déjà une maladie.
Quoi donc?
La vieillesse.
Non, la vieillesse n'est pas une maladie, c'est une
force.
Non, non,
c'est une fatigue.
Non, non, c'est pas du tout une maladie, la vieillesse.
C'est une fatigue.
C'est une phase. C'est une phase de la vie. La mort est inéluctable.
Oui.
D'ailleurs, mourir tout conscient, mourir en regardant ses enfants, c'est la meilleure mort. On est conscient de l'adieu qu'on fait au nôtre. C'est pénible, certes, c'est pénible, c'est douloureux, mais je crois que c'est la meilleure mort. Ma mère, je crois qu'elle était consciente jusqu'au dernier moment. Je disais que cette femme qui a vécu 91 ans, elle est morte à l'âge de 91 ans, malgré les affres et les souffrances qu'elle a connues, ce ne sont pas des souffrances propres uniquement à ma mère. Ce sont des souffrances propres à toutes les femmes, notamment celles qui ont vécu dans la montagne et dans la campagne, sous l'occupation coloniale, sous la botte d'une société patriarcale qui écrase la femme, c'est-à-dire qui n'accorde pratiquement aucune importance à la femme, aucun droit à la femme, sauf celui d'être une mère, d'être une femme, d'être une sœur, sans plus. Autrement dit, la femme sans l'homme n'est rien. C'est oui. Ça, c'est cette difficulté qu'elle a connue, ces souffrances, ces affres qu'elle a vécues. Malgré ça, elle a résisté jusqu'à 91 ans. Alors qu'il est difficile, en fait, à cette époque-là, durant les années 40, 50, 60, même 70, d'avoir une espérance de vie aussi longue.
Oui,
chez nous, au bled, dans les Aurès, à un certain moment, je me souviens, arrivé à 40 ans, on dit oui, le vieux flaine. À 40 ans, il est déjà vieux.
C'est vrai.
Elle a résisté, y compris au temps, mais pas inutilement, parce qu'en fait, elle voulait assurer à ses enfants et garantir à ses enfants ce qu'elle n'a pas eu elle-même. Ses enfants, garçons et filles, sans distinction.
Quelle leçon de vie?
Tout à fait.
Quel legs, un legs
tout à fait, tout
de
à fait.
Vie et de résistance. Moi, je l'ai appelé la rebelle. Hein. C'est vraiment, votre mère raconte des épisodes de sa vie de rebelle. Et jusqu'au dernier, quand elle était encore avec tous ses moyens, ses forces, elle a eu plusieurs obstacles. Même après l'indépendance, ça l'a poursuivi. Ça l'a poursuivie, mais elle n'a jamais baissé les bras. Elle était toujours prête au combat et elle gagnait. Elle avait toujours gain de cause. Ça ne relève pas du miracle.
Pas du tout.
Mais ça relève d'une nature.
Pas du tout, c'est la résilience, et cette capacité de résilience.
Cette foi
en la vie. Et pour elle, elle a des enfants, donc elle a une responsabilité. Elle a eu des moments de faiblesse. Bien sûr, elle a eu des moments de faiblesse, elle a eu des moments où elle a un peu baissé les bras, elle a pleuré de désespoir face à des situations et face à un mépris, face à des injustices qu'elle a connues, mais elle se ressaisit tout de suite. Elle tarde pas, elle se ressaisit. Non, j'ai des enfants. Ouais. J'ai des enfants, il faut que j'assume mes responsabilités et que je résiste jusqu'au bout, advienne que pourra. Et là, j'estime qu'elle a réussi. Elle a réussi. Nous ne sommes pas devenus des Richards. Non. Nous avons juste vécu bien et heureux. Et elle nous a appris à être heureux.
C'est ça. Et son dernier combat, ô combien symbolique, c'est elle a préservé l'essentiel, comme vous le dites, c'est très bien. C'est au moins un toit. C'est une maison.
Tout à fait, tout à fait.
Et son dernier combat, c'était, je crois, en 74 ou 78, où votre propre oncle voulait vous...
Chasser de la maison.
Chasser de la maison, mais elle a pris aussi ses responsabilités.
Pas seulement garantir le toit à ses enfants, non, c'est aussi préserver la mémoire de son, de son époux, de l'homme qu'elle a aimé, de l'homme pour qui elle a tout sacrifié. Parce que, non seulement par amour pour l'homme qu'elle aimait, mais aussi pour défendre sa propre dignité, sa liberté. Elle n'a pas le même sens que celui que les féministes donnent et expriment avec tant de d'éloquence, ouais, et avec une
des
envolées intellectuelles. Ouais. Non, elle, c'est pratique, c'est concret. Non, j'aime cet homme, je l'épouse. Cet homme, je ne l'aime pas, je ne l'épouse pas. Et elle résiste, et elle mène son combat.
La façon dont vous le dites, ça semble un peu facile. Mais il faut le replacer dans le contexte.
Tout à fait. Ça,
c'est,
tout à fait,
c'est à l'intérieur de, à l'intérieur de votre roman, il y a cette histoire. C'est une histoire à explorer, à développer. C'est, en elle-même, ça vaut l'amour en temps de guerre.
Tout à fait, tout à fait.
C'est l'amour en temps de guerre. Elle est juste magique. Ça mériterait que un roman. Ça mérite un autre roman, une autre lecture parce que, tel que je l'ai lu, c'est quand même incroyable. Elle est promise à un vieillard. Elle n'avait que 17 ans. Et là, elle résiste. Elle dit non. Elle dit non à ses parents. C'est déjà un fait inimaginable. Et non seulement non, elle résiste, mais ça, c'est pour moi, c'est parmi les passages les plus beaux, ce lien avec celui qui va devenir votre père. C'est à la fois... Elle a commencé par aimer sa voix. Parce que dans la nuit, elle ne percevait pas ses traits, avant de percevoir ses traits. Et comment on a organisé cette fugue? Comment on a organisé ce départ? Et puis, le départ, c'était pas pour une destination bien précise, mais qu'est-ce qu'il fallait parcourir comme étape et sauter tous les verrous, c'est pas uniquement briser des tabous, ça c'est, faut inventer un autre mot que c'est pas quoi, c'est vraiment se frayer un chemin dans la mer quoi.
Oh, je crois que la liberté, elle mérite
tous les sacrifices.
Les sacrifices et tous les stratagèmes.
Ouais.
Tous les stratagèmes.
Et là, il y a eu des stratagèmes.
Oui, il y en a eu. À son âge, c'est-à-dire à 17 ans. Elle est déjà une femme, c'est vrai qu'à l'époque, à l'époque, à 17 ans, une femme est déjà une femme. Il y a même des femmes qui ont été mariées à 12 ans, à 13 ans.
Ouais.
Bon, elle était mariée à 16 ans à son cousin maternel, qui était un peu débile. C'est comme ça qu'elle a divorcé de son cousin. Mais c'est grâce en fait à ce mariage qu'elle a connu mon père, parce que ce cousin maternel, il est du clan de mon père. C'est comme ça qu'elle a entendu mon père chanter dans un mariage, voilà, elle a découvert une voix, c'est vrai, paraît-il, il a une voix sublime. Il chante dans les mariages, parce qu'avant on n'avait pas des troupes musicales qui venaient chanter dans les mariages.
Ni de disques jockeys.
Ouais, ni de disques jockeys, c'est les hommes et les femmes,
qui
animaient les fêtes. Donc mon père faisait partie des gens qui venaient animer les mariages des parents proches notamment. Et c'est comme ça qu'elle l'a connu, c'est une autre parente qui lui a dit qui il était. Hein. Et puis lui aussi, il l'a vu. Elle était belle, ça, je peux en témoigner. Oui. Je l'ai connue, c'est pas uniquement parce que c'est ma mère. Mais elle était belle, ça, cette photo-là qui est sur la première page, c'est elle avait 46 ans, je crois. Cette photo, quand elle a été prise, elle avait 46
ans. Ouais.
Elle avait 46 ans. C'était une belle femme qui...
Oui, on voit, moi je la vois. Mais les amis auditeurs peuvent la voir dans les librairies. Elle dégage une sérénité dans son regard. Elle a même un petit sourire narquois.
Et de la Madone.
Oui. Mmh. Et la ressemblance avec vous, elle est incroyable. C'est Abdelkrim au féminin. C'est vraiment Abdelkrim au féminin. C'est terrible. Mais c'est vrai qu'elle est belle. Narahma. Et c'est comme ça d'ailleurs que vous la décrivez dès la première page. On dirait que c'est d'abord sa sérénité qui vous a le plus marqué. Je lis, donc, elle est sereine, du moins c'est l'impression qu'elle donne. Elle semble dormir paisiblement, je ne sais si je dois m'en réjouir ou m'en inquiéter. Son état s'est détérioré, depuis une semaine. Là, vous la trouvez sereine même dans ces derniers moments.
Oui, c'est étrange parce que elle est atteinte d'un tremblement essentiel parce que durant 10 ans, d'ailleurs, je l'explique, son médecin traitait le Parkinson alors que c'était pas le Parkinson.
C'est pas.
Ouais. Et le tremblement essentiel est généralement, d'après certains spécialistes, il est dû à un choc émotionnel. Qu'elle a dû subir, peut-être la mort de mon père, qui était une mort violente, à laquelle elle s'attendait pas. Tout d'abord, la mort en elle-même, elle est violente. En plus, elle perd l'homme de sa vie. Elle perd le père de ses enfants. Elle perd son soutien dans un contexte difficile. Ouais. Elle perd celui qui subvenait aux besoins de sa famille. Tout ça rassemblé, ça provoque un choc terrible dans un contexte où si tu n'as pas quelqu'un qui te soutient, qui subvient à tes besoins, tu risques de mourir de faim, de froid, et tu risques même d'être méprisé, de subir des injustices, y compris de ta famille.
Alors, il y a un moment, je ne me rappelle plus, dans le livre, où tu parles de ce froid glacial qui a transi aussi bien ta maman que ta sœur, quand elle était obligée de se déplacer.
Oui, elle vient de Jellel. Jellel, c'est là où on était consigné, où notre clan a été regroupé pour couper les liens avec les
maquisards.
Voilà. Et Jellal, c'est là où est né, c'est le pays de Dahman al-Harrachi.
Oui.
Il est originaire de Jellal, c'est la tribu de Bni Amran. Elle n'avait plus de ressources.
C'est ça.
Elle était obligée de partir dans ce qu'on appelle la zone interdite. Chir, l'endroit, c'est le petit hameau qui s'appelle Chir, et pour entrer en contact avec les Moujahidines, parce que le Gharour Abbas lui avait promis 2000 francs par mois
de l'aide,
oui. Mais il était mort, donc elle recevait plus de cette aide-là,
cette pension,
ouais. Donc elle est partie à Chir pour essayer d'entrer en contact avec les Moujahidines, pour leur rappeler l'engagement de l'Gharour Abbas. Et là, le village était vide. Il n'y a que des animaux qui errent.
Elle était obligée de passer la nuit, donc, avec votre
soeur. Donc, elle a passé la nuit dans une maison, heureusement, qui se fermait, etc. Il n'y avait rien, c'est-à-dire elle portait une robe sur
c'est un passage de...
Non,
vraiment.
C'est terrible, comme, parce que ça, je l'ai vécu. Mmh. Même moi, je me souviens, je portais une chemise longue, c'est une sorte de gandoura longue, sur la peau, en plein hiver, pieds nus. C'est terrible comme situation. Et là, par désespoir, elle a pleuré. Et ma grande sœur...
C'est la première fois, je crois, qu'elle a...
Non, je crois qu'elle a pleuré. Non, première fois. Je t'ai dit, ça, c'est les moments de faiblesse. Parce qu'elle se dit, elle a perdu ses cousins maternels. Elle a perdu ses cousins paternels. Les soutiens, ceux qui peuvent la soutenir. Mmh. On était dans une guerre et la majorité de la famille était engagée
dans
la guerre de libération. Sur qui elle pouvait compter? Même les cousins de mon père étaient...
Emprisonnée.
Donc, elle se sentait seule. C'est cette solitude-là qui était plus glaciale. Elle était plus glaciale que le froid.
Que le froid. C'est beau,
donc,
ça.
Ouais. Donc, elle a pleuré de désespoir et de douleur face à cette injustice. Y compris cette injustice, comment dirais-je, du ciel. D'autant plus qu'elle a avec elle des enfants à nourrir. Bon, heureusement, que le lendemain matin, elle a entendu un bruit assez tôt le matin. Quand elle a vu que c'était des moujahidines, il y avait même des parents parmi les moujahidines, on lui a promis de reprendre la pension, mais en attendant, on lui a donné des vivres. C'est tout ce qu'il pouvait donner à l'époque, parce qu'il n'avait pas de liquide sur eux. Les moujahidines ne se baladent pas dans...
Absolument.
Voilà.
Bien, ben n'est pas dans l'or, ni dans l'aisance. Alors nous sommes à 10, à H-10. Et déjà, vous écrivez, je commence à me sentir orphelin, car j'ai froid au dos, malgré ce temps lourd et cet air moite annonciateur d'un été caniculaire, je commence à avoir peur. Pourtant, je ne suis plus cet enfant collé au jupon de ma mère, qui avait peur du noir, qui éclairait avec son imagination débordante. Alors, je commence à me sentir orphelin. Pourtant, je ne suis plus cet enfant collé aux jupons de ma mère.
J'ai pas connu mon père. Quand mon père est mort, j'avais 6 mois dans le ventre de ma mère. C'est-à-dire,
oui.
C'est pourquoi une grand-mère, c'est la cousine de mon père, qui me disait Agoujil ou Even, c'est l'orphelin utérin.
Ouais.
Donc, c'est vrai, je ne me suis jamais senti orphelin dans l'absence de mon père.
Ouais, ne l'ayant pas connu.
Tout d'abord, je ne l'ai pas connu. Deuxièmement, ma mère me comblait avec sa présence, avec même si j'ai faim, elle fait tout pour que je trouve quelque chose
à manger.
Si j'ai froid, elle me couvre. Et après, à partir de 58, elle était obligée d'épouser mon oncle. Tout d'abord, parce qu'elle avait 26 ans quand mon père est mort.
Mais ça dure pas longtemps.
Non, ça dure pas. C'est à peine 2 ans.
Il meurt aussi.
Oui, tout d'abord, il tombe malade.
Il tombe malade,
c'est l'Alzheimer. Il devient difficile à vivre.
Violent.
Et sa fille aînée, qui est d'un autre mariage, c'est une cousine, bien que j'ai vue hier au bled, elle a préféré s'en occuper, elle, pour se racheter, en fait, pour d'autres raisons. Parce que lui, il n'était pas d'accord pour qu'elle l'épouse. Pour se racheter.
Donc elle a pris soin de son
elle
père.
Elle a pris soin de son père. Et c'est dans cette période où ma mère s'est retrouvée un peu seule. Parce que justement, mon oncle, il était pour moi un père. Il m'aimait plus que tout, plus même que sa propre fille qu'il a eue avec ma mère. Parce que j'ai ma sœur cadette qui vit en Italie actuellement. Il m'aimait terrible. De toute façon, comme un fils, quoi.
Ouais.
Donc, j'étais comblé sur ce plan-là. C'est vrai que après sa mort, j'étais peiné, mais je savais qu'il n'était pas mon père. Tant que mon père, c'est ma mère. Donc, au moment où je la voyais partir, je me disais, mais elle sera plus là. Même si je me suis marié, même si j'ai ma propre
des
vie,
enfants.
Et j'ai des enfants, non, ma mère, elle reste mon refuge éternel. Si elle s'en va, je n'aurai plus ce refuge-là. Elle reste un refuge, disons, c'est le refuge le plus important. Si ce refuge disparaît, ou il est détruit,
je perds mes repères.
J'aurai froid, je perds mes repères, comme tu l'as dit, et à ce moment-là, je deviens orphelin, c'est pourquoi je me suis senti itim, un vrai agoujil.
Agoujil. Ouais. Voilà. Ça, c'est vous reprenez un peu ce qu'avait dit Al-Haddad. Hein. Au moment où il a perdu sa mère, il dit, j'ai compris qu'on pouvait être orphelin à 60 ans.
Ah oui. Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, c'était une solitude terrible. Je dirais même un vide. Il y a un vide.
Qui s'installe.
Ah oui, il y a un vide quelque part.
Ça, on le ressent. On le ressent tout au long de votre roman. On ressent ces mêmes, j'allais poser la question, en l'écrivant, ça vous a servi, ça vous a un peu le... Est-ce que le mot est juste libéré d'une dette, d'un poids
Non, je crois que c'est le mot. Parce que tout d'abord, elle voulait que je raconte quelque chose.
Ah.
Non, elle le voulait. Elle me raconte tout le temps. Dès que je suis avec elle, elle commence à me raconter. Pourtant, les femmes de notre région, j'imagine comme toutes les femmes des campagnes algériennes, de la société un peu traditionnelle algérienne, elles sont quand même, il y a de la retenue. Voilà. Elles ne racontent pas facilement leur vie. Il y a même des femmes de ma famille, je leur dis, comment tu as connu ton mari?
Elle refuse.
Oh, Gia. Non, ça se dit pas, ça se raconte pas. Non, c'est des choses intimes qui doivent rester dans le truc. Bien sûr, ma mère, elle m'a pas tout raconté, c'est normal. Il y a des parties intimes qu'elle pouvait pas me raconter. J'imagine qu'elle a rencontré mon père un peu en cachette.
Mais ce qui est dit déjà, c'est beaucoup, c'est énorme. Hein.
Oui, c'est l'essentiel.
Je retiens ce mot, c'est l'essentiel.
Moi, je crois que même elle m'a raconté l'essentiel. Moi, je pose des petites questions par-ci, par-là, pour la piquer, pour essayer, justement, pour chercher ce côté romanesque de cette histoire d'amour. Elle n'y prête pas attention. Et quand elle le dit par inadvertance, c'est-à-dire c'est spontané. C'est spontané. C'est de façon naturelle qu'elle... En fait, ce n'est pas dans des mots. C'est dans des attitudes.
Dans le regard, dans les yeux.
Dans la manière de dire les choses. C'est là où tu comprends l'amour qu'elle apporte à cet homme. Elle te dit jamais que oui, je l'ai aimé.
Non, le mot est interdit. Même.
Non, ça tu l'entendras jamais.
Jamais, ben, oui.
D'ailleurs, il y a des femmes, jusqu'à ce jour, je parle des vieilles dames,
oui.
Elles n'appellent pas son mari par son prénom.
Oui.
Elles l'appellent Rajl, Houa, Muldar, Bebek. C'est comme ça.
C'est ça, oui.
Mais jamais elle prononce son prénom.
Son prénom, c'est incroyable.
Jamais.
Ouais, c'est vrai,
jamais.
C'est une réalité aussi.
Comme par exemple le père qui n'embrasse jamais ses enfants devant ses parents. Il les embrasse, il les prend dans ses bras, en cachette, mais jamais devant ses parents.
Oui.
Paraît-il, Ib, je ne sais pas...
D'où ça vient?
Ah oui, il y a des...
Ça s'est instauré, ça s'est... Mais ça me rappelle quelqu'un que vous aimez certainement, c'est ce qui s'appelle Cathy Biassin, qui disait, juste au moment où on a retrouvé un peu de des airs de liberté déclarés, c'est prenez vos magnétophones et allez dans les montagnes interroger les femmes. Elles ont beaucoup de choses à vous dire. Elles ont beaucoup de choses à vous raconter.
Tout à fait, c'est des bibliothèques.
Quand je lis, c'est incroyable.
Au-delà de leur propre vécu, c'est des bibliothèques. Elles sont la mémoire de la...
Elles sont vraiment la mémoire.
C'est elles qui transmettent les valeurs, c'est elles qui transmettent la tradition, c'est elles qui font le lien entre le passé et le présent, et elles se projettent même dans l'avenir en préparant les enfants à l'avenir. C'est pourquoi les femmes sont... l'importance de la femme, elle est insoupçonnée, en fait.
Oui, c'est vrai. Alors, il y a aussi un autre nom célèbre qui revient en tête au moment où je lisais le livre, c'est Idir, le chanteur, qui, à mon sens, a rendu le plus bel hommage
à sa maman.
À sa maman, mais à toutes les femmes, d'ailleurs. Je l'avais une fois transcrit tout le... C'est un prologue qui fait à sa chanson Sindhu, où il dit normalement, cessez de regarder ces femmes comme des mères... qui enfantent, qui allaitent, ou uniquement, mais...
Des reproductrices.
Mais peut-être elles ont des amours contrariés. Mais elles ne trouvent pas plus d'interlocuteurs. Le seul interlocuteur qu'elles trouvent, c'est au moment où elles préparent. J'ai trouvé ça aussi extraordinaire. C'est vrai qu'on a, je ne sais pas, qu'on a toujours regardé la maman comme étant une personne qui est là, qui...
Tu sais, dans les études anthropologiques à travers le monde...
Hein, oui.
L'origine de la métaphysique, oui, de la magie, c'est chez la femme. C'est la femme qui l'a. Avec la période de la découverte de l'agriculture, la femme s'est sédentarisée avant l'homme. L'homme est resté un cueilleur, chasseur-cueilleur. La femme, elle s'est sédentarisée. Elle a le temps de réfléchir. Elle a le temps d'observer. Elle a le temps d'interpréter. Et au-delà, son rapport affectif à sa progéniture, même si l'amour du mâle, ça doit exister.
Oui.
Mais je crois que l'amour à ses enfants est, comment dirais-je, il est plus que sacré. La disparition de cet enfant, de la mort d'un enfant, pousse la femme à se poser la question sur l'après-mort. Et d'où la quête d'une réponse et des questionnements métaphysiques.
Ce que tu viens de dire.
Tout à fait. Là, ce que tu viens de dire, oui, ça s'explique. C'est la femme qui est le domaine de l'imagination, qui détient le domaine de l'imagination et de la métaphysique et des premières idées de la religion. Tu vois, elles sont nées chez la femme qui s'est sédentarisée pour des raisons objectives, tout d'abord, parce que quand elle porte un enfant, elle peut plus aller chasser, ni aller faire cueillir les fruits. Donc, elle s'installe et elle a le temps
de réfléchir
et de se poser des questions métaphysiques et existentielles.
Et Brel aussi qui le dit, hein, dit que la femme est sédentaire. C'est elle qui a d'abord les idées de sédentarité. Mais moi, je reviens à vous. J'allais dire la première victime de... Ou celui qui a écrit ce chagrin qui vous a envahi. Mon cœur s'est soudain emballée. J'ai appelé ma nièce, infirmière, qui était dans la cuisine. Elle a difficilement trouvé à la veine pour changer la seringue de bras, mais en vain, elle a jeté un regard désolé. La pression artérielle a baissé. Le cœur de ma mère est fatigué d'aimer. J'adore ça, fatigué d'aimer. La mère est amour.
Tout à fait. Même quand elle t'en veut, même quand elle te gronde, même quand elle te punit, et elle te punit sévèrement, parce que tu as commis une faute, notamment les fautes graves.
Oui.
Je crois qu'elle le fait par amour. Et quand elle te gifle, il y a de l'amour dans ce geste-là. Je raconte quand elle m'a giflé lorsque
racontes très bien.
Non, sa réaction sur le coup. Sur le coup, sa réaction, elle m'a déçu. Comment ça, ma mère, elle me gifle parce que j'ai demandé à ma sœur de bien s'asseoir. J'ai réagi.
Non, il faut juste rappeler l'âge que tu avais. Tu t'es jeune,
J'avais 15 ans.
Ouais, voilà. 15 ans. Et ta sœur était juste...
Elle me dépasse de 2 ans.
C'est ça. Et que ça se passait à l'intérieur de la maison.
Oui, oui, à la maison. Moi, j'étais en train de manger, elle arrive de l'école.
C'est ça, ça se passe.
À l'époque,
manger.
On mangeait dans la même assiette.
C'est ça.
On se partageait ça doit être du couscous.
Ouais.
Ou je ne sais quoi. Surtout le couscous, c'est tout ce qu'il y avait. D'ailleurs, s'il y avait un peu de couscous, c'est déjà
un festin.
Un festin, comme tu dis. Donc, elle s'est assise de façon nonchalante, tu vois.
Sans faire... Elle s'est assise. Elle était à l'aise à la maison.
Voilà, les jambes un peu écartées. Je reçois une gifle qui m'a renversé.
Ouais.
Je dis à ma mère, pourquoi tu me frappes? Détourne ton regard.
C'est tout.
C'est à toi de détourner ton regard. Laisse-nous être à l'aise chez nous. On
ne
peut
moins.
Même pas être à l'aise chez nous.
Au moins.
On est déjà embêtés dans la rue. Vous nous embêtez même ici. Là, j'ai très mal pris, c'est normal.
À l'époque.
Mais après, quand j'ai commencé à prendre conscience...
Ouais, à grandir.
Oui, enfin, non, c'est-à-dire à...
Ouais.
À découvrir les idées de liberté, les idées révolutionnaires, le féminisme. Ah, je me suis dit, mais cette femme, elle a... Ah oui, c'est... Elle a des idées qui vraiment avancées. On avance par rapport à son temps. Cette femme, analphabète, qui a appris à lire et à écrire bien tardivement, à partir de 40 ans. Elle nous disait qu'il faut que j'apprenne à écrire, et elle a réussi à apprendre à lire et à écrire.
Derrière, mais jusqu'à présent, des femmes âgées qui...
Tout à fait, qui vont à l'école.
Oui. Alors, je poursuis toujours. Vous écrivez, toute sa vie a été un combat pour la survie, fait de résilience, de courage et de sacrifice et d'abnégation. Voilà, c'est toute sa vie, c'est là. Et... ces côtés de rappel à une appartenance, à un mode de vie qui est le nôtre. Elle a toujours aimé s'allonger par terre.
S'asseoir par terre.
S'allonger et s'asseoir par terre aussi.
Oui, oui, ma mère, elle n'aimait pas trop les chaises. Mmh. Et quand elle s'assoit sur un...
Un fauteuil ou...
Non, non, quand elle s'assoit par terre... Elle ne s'adosse jamais au mur.
Au mur. Ni à pour rester toute droite.
Oui, droite. Et elle est avec cette air altière, tu vois, altière, hautaine. Mmh. Et pas seulement elle.
Toutes.
Beaucoup de femmes. Je dirais pas toutes, mais beaucoup de femmes dans notre région, dans les Aurès, ont cette attitude-là. Quand elles s'assoient, elles ont le dos droit.
C'est incroyable ça.
Et quand elles parlent, elles ont toujours... ce regard hautain, il y a cette attitude altière. Hein?
Presque royale.
Ah oui, 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 c'est extraordinaire. Mm. C'est propre à ces femmes de montagne, je crois. Il y a une fierté dans tout ce qu'elles font, il y a une fierté.
Hein? Ouais.
Pourtant, hein, elles subissent le diktat des hommes. Mais elles n'ont jamais perdu leur fierté et leur attitude hautaine et altière.
Par contre, vous perdez, au fur et à mesure que vous parlez de ce H-10, un peu de votre calme, de votre sérénité. Vous écrivez, et moi j'ai peur du vide. C'est comme si soudain, vous découvrez que vous allez faire un saut dans le vide.
Tu sais, Tazarout, durant les années... où j'avais cette certitude que ma mère est en vie, qu'elle se porte bien, elle est en bonne santé. J'avais l'impression que j'étais protégé par sa présence, même si je ne suis pas avec elle. Surtout dans les années 80. Dans les années 80, je suis rentré à la fac, je commençais des activités politiques clandestines, donc je rentrais pratiquement pas à la maison. Il m'arrivait de ne pas voir ma mère pendant 3 mois. Je l'appelais au téléphone, à l'époque c'était le fixe, je demandais de ses nouvelles. Même si je n'appelle pas, je sais qu'elle est là.
Ouais.
Je sais qu'elle m'attend.
Le repère est là.
Je sais.
L'amour est là.
Je sais qu'elle m'aime. Ouais. Et c'est déjà une garantie. Et une assurance. Cette sensation, ou cette peur du vide, hein, alors que je voyais ma mère en train de...
De partir.
Comme une rose en train de flétrir, tu vois, à vue d'œil, je la voyais... Tu vois, elle était entre l'éveil et la somnolence, tu vois. C'était pas vraiment le coma, elle n'était pas dans le coma. Parce que ses yeux se ferment quand je lui parle, quand je lui prends la main.
Elle
ouvre les yeux comme ça, un peu difficile. Elle me fait un sourire et elle me caresse un peu la main. Comme... Je suis là, je suis toujours là. Je suis là avec toi.
C'est-à-dire, mais c'est toi qui perds le sommeil.
Oui. Je la vois partir. Donc cette sensation de vide, en fait, c'est, tu revois tout ton passé et tu te dis, cette femme, elle peut mourir. Tu te dis, est-ce possible? Parce que moi, je pense que tous les enfants pensent que leur mère est éternelle.
C'est ça.
Et on reste, nous aussi, on reste d'éternels enfants face à notre maman.
Dans tous les aveux de personnalité... d'amis, d'hommes, de parents qu'on connaît, la perte des mamans est vécue différemment pour des raisons que vous êtes en train de citer. Et là, je m'adresse à Abdelkrim, à l'auteur militant, qui avoue dans ces moments-là de particuliers, donc c'est une semaine, 10 jours de particulier. Elle s'appelle, parce que c'est presque à la 4e page ou 5e page que vous donnez son nom. Elle s'appelle Sultana. Hein, c'est la reine, Sultana en arabe. Hein, Sultana, c'est la reine. Elle était, elle est, et elle sera toujours ma reine. Elle l'a été, moi c'est ça qui m'a fait... j'ai arrêté de lire pour relire plusieurs fois ça. Elle a été l'unique autorité contre laquelle je ne me suis jamais révolté, que je n'ai jamais contesté. Ça, c'est, pour moi, c'est le plus bel des hommages.
C'est vrai.
Je ne conteste aucune décision de ma maman.
C'est impossible. C'est impossible. Oui, je peux discuter certaines choses, mais je le fais pas sous la forme de l'opposition.
Ouais.
J'essaye, en fait, de la raisonner. Maman, ça se fait pas.
Mais impossible.
Ça, mais je ne peux pas m'opposer. Non, tu n'as pas... Ça, jamais. Je crois que c'est l'unique autorité sacrée.
Voilà, c'est dans l'ordre du sacré.
C'est l'unique autorité sacrée.
C'est dans l'ordre du sacré. Et vous continuez, hein. Elle était la source qui a désaltéré ma soif du passé riche, magique, glorieux de ce pays, chéri. Fier, hautain, mais rude et impitoyable, j'aimais l'écouter me raconter la geste des femmes et des hommes qui ont vécu sur cette terre isolée, désolée, adulée, haïe et trahie. Cette terre théâtre de et témoin de tant d'amour interdite et d'années que de guerre sacrée et profane. Cette terre où les falaises et les canyons sont autant de relais pour les cris de douleur et les huillots des femmes pour soutenir les combattants de la liberté et tant de passion et de rancœur. Vous alliez de choses, le présent et ce passé, cette région rude, mais cette région qui résiste et qui affronte l'envahisseur. Et
non, si tu connais, si tu découvres un peu la région où j'ai vécu, l'Aurès, le massif des Aurès, est un massif où tu trouves des paysages qui n'ont rien envié au Canada.
À ce moment, vous parlez de ces plaines où on voit des champs de blé à perte de vue, hein?
Oui, mais c'est pas dans notre région.
Oui, dans les alentours.
Oui, dans les plaines du nord de l'Aurès, ouais. Mais notre région est plus aride que d'autres régions des Aurès. Pour aimer ce pays-là, il ne s'agit pas d'y aller, de découvrir des canyons, Non, il y a toute une histoire derrière.
Il faut connaître.
Tous les mythes. Non, c'est ce que me raconte ma mère.
C'est ça.
On aime cette patrie, ce bout de terre qui est aride, désolé, isolé, comme c'est écrit. On l'aime parce que il est le théâtre d'une histoire, d'un passé, de mythes, de vécu.
C'est ça.
Et c'est grâce à ma mère. Si je te dis que.
Et en plus, c'est vrai. Ne serait-ce que pas pour prendre que le parcours de votre mère, c'est vrai. Cette terre a été le théâtre de mille histoires vécues par votre mère. Et ce n'est pas des histoires quelconques. C'est vraiment une histoire à raconter et à préserver.
Je dis que j'ai l'âge de ces histoires. L'âge de ce qu'elle m'a raconté. Elle me raconte deux siècles d'histoire. J'ai cet âge. Ça, c'est l'âge de ses souvenirs. Et des histoires qu'on lui a racontées, que ses grands-parents lui ont racontées. Donc c'est toute cette transmission qu'elle a eue parce qu'elle était le réceptacle de toutes ces histoires qu'on lui a racontées. Et puis elle me les transmet. Je dis, j'ai cet âge de ses souvenirs. Et c'est à travers ces souvenirs-là que je commence à aimer cette terre qu'on ne doit pas aimer parce qu'elle est aride, il n'y a rien à aimer.
J'ai
un cousin, d'ailleurs je le dis, un cousin qui me dit, pourquoi nos ancêtres sont venus dans ce pays
s'installer ici?
Pourquoi ils viennent s'installer ici?
Il y a des raisons.
C'est un terrain, c'est vrai, il est ocre. Là, c'est la couleur ocre, il n'y a que la couleur ocre. Il est rare de voir de la verdure qui ne peut exister que le long de l'Oued. En bas, lorsqu'il pleut et lorsque la Loued est chargée d'eau.
Oui. Alors cette région aussi a donné des résistantes. Parce qu'il y a un passage où vous dites, les femmes ont servi de bouclier aux résistants.
Tout à fait.
Il y a ce passage, c'est incroyable. Hein. Au moment où les hommes doivent s'être encerclés ou par l'armée française... moins d'une heure plus tard, des huons ont commencé à fuser des crêtes.
Non, le chef de la Katiba a carrément envoyé un maquisard. Il lui a dit, va appeler les femmes au secours.
Au secours, nous sommes en cette clé.
Parce que eux, ils croyaient qu'ils avaient affaire à une petite unité de l'armée française.
Alors, ils se rendent compte
que c'était quand même... Attends, plus eux, ils ne sont pas... Les armes des moujahidins ne sont pas des armes.
Ouais.
Et puis même leurs munitions, ils suffisent pas pour tenir plusieurs jours. Donc, il a envoyé un de ses hommes de se faufiler au risque de sa vie.
C'est ça.
Aller vers les différentes meshtas, les différentes douars, pour appeler les femmes au secours. Et les femmes, elles se mettent au sommet des crêtes et des falaises.
Ouais.
Et elles commencent à lancer des yoyos. Ce que j'ai appelé les armes non conventionnelles, tu vois, qui ont semé la terreur dans le cœur des soldats français et qui ont carrément battu en retraite. Et c'est comme ça que ces moujahidines, ce petit groupe de moujahidines a été vraiment...
La vue sauve.
Ah oui.
Et cette sultana, elle aime ce pays, Chaoui, elle l'aime. Elle parle de... Bon, elle l'a fait parler, elle aime son climat, sa population, la saveur de céréales, de ses fruits, de ses viandes.
Elle a été pétrie. Elle-même a été pétrie de la glaise de cette terre, c'est normal. Elle l'aime. Elle l'aime autant qu'elle la déteste, en fait.
Elle allait souvent, vous la prenez souvent.
Souvent. Elle ne rate pas une occasion
pour
repartir.
Il y a un lien. Elle a un lien viscéral avec cette région.
Le jour où elle m'a dit je ne peux pas partir au bled, j'ai compris que c'était une année avant son décès, c'est-à-dire elle était fatiguée physiquement, elle pouvait plus supporter le voyage en voiture, même dans l'avion, c'est quand même 600 kilomètres, elle pouvait pas supporter, là j'ai compris, parce qu'elle aimait partir. Chaque fois elle m'appelle, tu veux pas qu'on parte au bled? Oui, partons au bled. Mais dès qu'elle... Non, le jour où elle m'a dit je ne peux pas partir, j'ai compris que c'était le début de la fin.
Ouais.
Parce que son lien... avec cette terre, c'est un lien viscéral, ombilical, c'est comme mon lien à elle.
Oui, c'est un lien à la limite qui ne s'explique pas, qui est vécu, qui ne peut pas être... Il s'explique d'une certaine façon, mais qui n'est pas...
On n'a pas besoin de l'expliquer.
Oui, on n'a pas besoin de l'expliquer. C'est beau, s'il faut le lire, il faut aimer auditeur, il faut vraiment aller acheter, si vous voulez rendre hommage à toutes les mamans, il faut lire ce livre, L'amour en guerre. Si vous voulez connaître ce qu'est le pays Chaoui, vous trouvez des pistes, ça vous donnera peut-être envie d'aller visiter ce pays. Bien, c'est passionnant, mais le temps passe vite, on va passer au questionnaire, juste histoire de détendre un peu l'atmosphère. Alors, mère en montagne,
d'après toi,
la montagne.
Bah oui. Non, je suis un montagnard, c'est dans le sang.
Bah oui, c'est bien. Très bien. Alors, le plat aussi, ça se devine.
Oui, le berboucha. Le berboucha, c'est le couscous.
Oui.
En Chaoui, on dit le berboucha.
Ah, d'accord. Le fruit.
Oui, c'est la pastèque, mais avec les glycémies, donc je...
On évite.
On évite, mais ça reste un bon fruit.
De temps en temps, c'est permis.
Oui.
Bien, les auteurs algériens, les écrivains algériens, qui vous ont marqué?
Bah, je crois que ce serait ça va de soi, c'est Ketbi Yassine qui marque. Ce n'est pas parce que, tout simplement, c'est le beau-père de ma fille, mais c'est aussi un rebelle.
C'est un rebelle,
c'est aussi
sens propre.
Parce que c'est un rebelle, c'est un fondateur d'un genre littéraire qui a marqué la littérature mondiale, pas seulement algérienne. C'est le père de la littérature maghrébine, donc il mérite tout le monde. Il y a Tarjaout.
Ouais.
Je m'incline à sa mémoire. C'est un grand homme, un grand journaliste, un grand confrère. Voilà.
Bien, le livre que vous lisez assez souvent, que vous reprenez, parce que
Le Rouge et le Noir.
Le Rouge et le Noir.
Le Rouge et le Noir de Stendhal,
c'est connu comme étant un des ouvrages marquants de la littérature mondiale. Quelle est la chanson que vous pouvez écouter en boucle?
Talriyab Kierzali, c'est de Cheb Hasni.
C'est vrai qu'elle est magique, cette
Non, année. Je trouve que Cheb Hasni est une grosse perte pour l'art algérien et pour le raï algérien. C'est un fondateur d'un style.
D'un style, c'est
et vrai. D'un genre. C'est pas seulement pour son le romantisme.
Non, non, pas du tout. Il dégage quelque chose.
Ah,
il dégage.
Oui.
Il dégage une aisance incroyable. Il dégage aussi. C'est vrai que c'est une perte. Quel est le chanteur que vous aimez? Algérien ou étranger?
C'est Brel.
Brel,
ouais. Je crois que Jacques Brel est. C'est un grand philosophe.
Merci beaucoup, Abdelkrim Rzali.
C'est moi qui te remercie.
Pour ce roman, ce témoignage, cet amour. Parce qu'il y a de l'amour, beaucoup d'amour. C'est écrit avec amour. Allez-y le chercher dans les librairies et le lire, amis auditeurs. Je vous dis merci d'avoir suivi votre émission En Prête, qui a été réalisé par Kamel Oularbi et que j'anime. Je vous rappelle que l'émission est rediffusée le dimanche de 22h à 23h. Au revoir, bon week-end, merci.
I'm not.